Pour commencer, j'aimerais ajouter deux attributs à Jésus-Christ. Vous savez qu'il y en a, on pourrait en ajouter beaucoup, beaucoup. Mais ces deux attributs que j'aimerais rajouter, c'est Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et Jésus-Christ est le premier-né de la création. Alors, je lis. Dans Matthieu 26, 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Qui veux-tu que nous te. Oh, pardon. Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alors là, je fais un grand geste avec ma canne à pêche. Et elle se. L'hameçon se retrouve environ 1500 ans plus tôt en Égypte. Là-bas se trouvent les descendants de celui qui a lutté avec Dieu et avec des hommes et a été vainqueur. C'est Israël que Dieu à qui Dieu a donné ce nom, en fait Jacob, le petit-fils d'Abraham. Pour les descendants de Jacob, les choses avaient bien commencé en Égypte, mais 430 ans plus tard, c'est intenable, tant la tyrannie de Pharaon et de son peuple est violente. Dieu décide de les en délivrer. Il choisit Moïse et Aaron. Il n'y a aucun espoir que le tyran fléchisse. Dieu va le frapper, lui, le tyran, ainsi que son peuple et même ses animaux, en tuant tous les premiers-nés dans le courant d'une seule nuit. Mais les premiers-nés d'Israël pourront échapper à l'exterminateur si les enfants d'Israël immolent un agneau et en répandent le sang sur les montants et les linteaux de leurs portes. Dans cette nuit, par l'action de la main toute-puissante de Dieu, le peuple d'Israël fuit l'Égypte. Dès lors, Dieu considère que les premiers-nés d'Israël lui appartiennent. Il demande qu'ils lui soient consacrés. Et le mot peut vouloir dire aussi sacrifié. Mais ne pensons pas que Dieu a demandé que les premiers-nés d'Israël soient sacrifiés. Ce n'est vraiment pas son genre. Non, les dieux. Les dieux nombreux de l'époque, peut-être qu'ils demandaient des sacrifices, enfin, en tout cas dans la tête de ceux qui les idolâtraient, ils demandaient des sacrifices. Mais Dieu, non. Pensez à Isaac, des centaines d'années avant, Dieu a offert un substitut. Et il en est ainsi dans la suite. Puisqu'on est là-bas en Égypte, j'aimerais m'arrêter un tout petit moment sur le personnage de Moïse. Moïse a eu d'innombrables révélations de Dieu. En Exode 3, 13 à 14, Moïse dit à Dieu, vous savez, cet épisode, il est déjà depuis 40 ans dans le désert, après avoir tué un Égyptien, voilà, il s'est enfui dans le désert, et puis un buisson dit ardent, hein, et Dieu lui demande d'être son instrument, Dieu demande à Moïse d'être son instrument pour délivrer le peuple. Alors Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et là, il y a deux fois le verbe être. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Une autre révélation que Moïse a eue de Dieu, en Exode 19, 4 à 6, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, dit Dieu. Et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Là, on est donc après l'Exode. Hein. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et ne pensez pas que ça concerne les Israélites seulement, les prêtres. On s'imagine. Non. Vous pouvez voir dans plusieurs endroits dans le Nouveau Testament que cette réalité est devenue aussi celle des chrétiens, finalement. Après Christ. Et même, justement, on parle de Pierre, même dans la première épître de Pierre, eh bien, il est mention que nous sommes des sacrificateurs ou des prêtres. En plus, Moïse, c'est l'apôtre du monothéisme. Alors certes, d'après des écrits donc qui ont été justement écrits beaucoup plus tard, je dirais pas du vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais des écrits qui les concernent, ces trois, Abraham, Isaac et Jacob, on voit que, contrairement à leur origine mésopotamienne, disons, où là-bas, les dieux étaient... Il y avait foison de dieux, eh bien, déjà, Abraham, Isaac et Jacob croyaient en un dieu unique. Mais ce qu'il y a de particulier avec Moïse, c'est que lui, il a écrit cela. Il a écrit ça même sur une table de pierre. En Exode 20, 3 à 4, Exode 20, c'est les 10 commandements. Hein. Le « je suis l'Éternel qui vous avait délivré des vrais », « je suis » lui a dit, « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. » La pensée que j'avais avec ça, et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que il y a une grande différence entre l'attitude de vouloir rechercher celui qui est. Voilà, Dieu, Jésus-Christ, sont. Ça ne change pas, c'est là. Il y a une grande différence entre l'attitude de vouloir rechercher et l'attitude de se dire, je m'en fais, je conçois qui ils sont. J'essaye de moi-même de me dire, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Parce que faisaient les peuples alentour? Ils se disaient, moi, je pense que ce dieu-là, il doit être comme si. Alors, il commençait à sculpter, il se faisait une petite statuette, puis il la mettait là, puis après une image, et puis il l'accrochait là, et puis voilà. Pour lui, c'était son dieu. Mais ça venait de lui, ça venait, si vous voulez, c'était de l'homme qui se projette et qui essaye de concevoir son dieu. Non, l'attitude qu'il faut avoir, c'est de rechercher qui il est. En plus, chose très importante, Dieu est invisible. Voilà. C'est pas si facile de rechercher quelque chose d'invisible. Mais c'est ce qui nous est demandé. Ça, c'est tout à fait clair tout au travers de la Bible. Alors, d'après la montre, ça va encore. Je vois Marie-Laurence qui... alors, ça c'est clair que depuis Moïse, eh bien, et aussi les 10 commandements, c'est toute une pédagogie de Dieu pour que ce peuple apprenne à réellement rechercher qui est Dieu. Alors maintenant, justement, le geste de Marie-Laurence est bien parce que je reprends ma canne à pêche. Josué, les juges. Les rois et leur décadence, les grands prophètes, Esaïe et Jérémie, la déportation, Ézéchiel, Daniel, le retour, Esdras, Néhémie, des petits prophètes. Un premier gros poisson. Jean Baptiste, fils d'Élisabeth, descendant d'Aaron et de Zacharie, un prêtre. Un autre, si je peux me permettre. Beaucoup plus important encore. Jésus, fils de Marie. Fils de Marie, une vierge, et de du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Vous lisez Luc 1, 35. Lisez Luc 1, 35. Et là, moi, je dois dire, en préparant ce message, moi, j'ai... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Ça fait tilt. Je lis Genèse 1, 2. Avant la première Genèse, ça commence comment ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est le verset 1. Le verset 2, c'est avant la première parole. Donc, avant qu'il commence à créer, l'Esprit de Dieu planait, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit, il était déjà là. Et cet Esprit, eh bien, c'est lui qui a permis à Jésus de naître, de s'incarner. Voilà. Alors je pense que ça, rien que ça, ça donne une bonne raison à Paul d'écrire aux Colossiens, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi j'avais, à un moment donné, j'avais fait ça comme ça, puis il ne se passait rien ? C'est une autre chose que j'ai observée, c'est que aussi bien la Pâque en Égypte que l'avènement de Jean-Baptiste et ses révélations concernant celui qui le suit de peu, donc Jésus, eh bien c'est la Pâque et l'avènement de Jean-Baptiste adviennent après une période de silence, de vide scripturaire, pas d'écrit, d'une durée de plus de 400 ans. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, aussi bien au moment de la Pâque en Égypte que au moment de Jean-Baptiste, est-ce que le besoin de Dieu était plus grand ? On peut se poser la question. On en arrive à Pierre. Pierre est un juif de Bethsaïda, fils de Jonas. Il s'appelle en fait d'un nom hébreu, Siméon. Alors, Simon, souvent on l'appelle. Hein. La région de Bethsaïda, au nord du lac de Galilée, est une région qui était hellénisée, donc qui a été un peu colonisée par les Grecs. Il a probablement appris le grec tout en ayant reçu une éducation juive. Il a fait sa bar mitzvah. Son frère s'appelle André, c'est un nom grec. Pierre s'associe pour la pêche avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et puis Philippe, l'apôtre Philippe, est de la même région. Alors, Philippe, Pierre, Nathanaël, Jean, André, ils entendent parler de Jean-Baptiste. Ils se rendent au Jourdain, environ 120 km de marche. Nous, on fait ça en une semaine. Hein, bon. Pour écouter Jean-Baptiste. Et Pierre devient disciple de Jean. Avant lui, André, son frère, et Jean, le fils de Zébédée, tous les deux, ils étaient aussi devenus disciples de Jean-Baptiste. Mais on lit dans Jean 1, toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, Jean-Baptiste, hein, qui était encore là avec deux de ses disciples, il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Oui, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Ils ont entendu Jean dire « Voici venir l'agneau de Dieu ». Ils suivent Jésus. Et puis André est bouleversé. André, le frère de Pierre, ben, la première réaction qu'il a, il va vers son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Et André conduit son frère vers Jésus. Et ça, c'est la première rencontre de Pierre avec Jésus. Il est dit, Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Alors Cephas, en fait, c'est un nom araméen, parce que Jésus parlait araméen, Képha. Mais la signification du nom, ce n'est pas un prénom habituel, ça veut vraiment dire Pierre. Ouais, Pierre comme caillou, quoi, exactement. Ouais. Donc, la vision de Jésus, visiblement, c'est de faire de cet homme, de ce Simon qu'il a en face de lui, quelqu'un de solide. Ça, je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors là, j'ai une petite note personnelle. J'ai mieux compris pourquoi Jésus a dit de Jean-Baptiste, en Matthieu 11:11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Vous vous rendez compte l'importance de ce prophète dans la vie de Pierre, mais aussi de Philippe, de Nathanaël, d'André, plusieurs disciples qui l'a conduit à Jésus. L'importance, elle est énorme. Alors, concernant Pierre, ça va pas être très très long. Hein. Je dirais seulement que Pierre s'est montré un disciple fervent, plein de foi. Et puis, il a confessé avec conviction que Jésus était le Fils de Dieu. En Jean 6, on lit, Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et puis, en Matthieu 16, Jésus demande, parce qu'il a demandé, « Mais que pense-t-on de moi ? Que dit-on ? Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous voyez, Pierre, c'est loin d'être quelqu'un qui était, disons-le de manière positive, c'était quelqu'un qui était très proche de Jésus, qui en avait une... plus qu'une estime, je veux dire, c'était vraiment pour lui, c'était le Fils de Dieu. On en arrive maintenant, et je vous assure, le passage n'est pas très très long là, hein, donc je ne vais pas vous ennuyer encore très longtemps. On arrive au soir même du repas de la Pâque, avec Jésus et ses 12 disciples. Et là, c'est un moment de grand trouble, en fait. C'est un moment de grand trouble. Trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ils relatent un peu de la même façon la Sainte Cène. Jean, il dit pas certaines choses, mais les quatre évangiles parlent de la trahison de Judas, l'Iscariote. Jésus dira de cet homme, « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Alors moi, je me pose la question, mais qu'a-t-il reçu et compris de Jésus pendant les 3 ans ? Il a été choisi par Jésus. Comment concevait-il le Messie que sa nation attendait ? Mais a-t-il, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cherché à connaître Dieu ? Il était dans sa logique, toute humaine, quels étaient ses objectifs politiques, je n'en sais rien, mais il est passé à côté de tout. Et c'est triste parce que, Judas, c'est un personnage, C'est un personnage unique, mais c'est aussi un type, et je crois que malheureusement, de nos jours encore, il y a des personnes qui sont capables de passer à côté de tout. Ça fait réfléchir, quoi. Alors, Pierre, dans ces moments-là, malgré sa foi sincère, ben lui aussi, il rentre dans une zone de turbulence. C'est pas grave comme ça, mais en fait, lui, c'est parce qu'il n'accepte pas l'idée que Jésus doive aller seul sur le chemin qui le met à la merci de ses ennemis. Il s'accroche malgré les avertissements de Jésus, mais c'est bien en vain. Vous savez ce qui est passé, ce qui est arrivé à Pierre à l'arrestation de Jésus. J'ai pas besoin de vous raconter que voilà, il a plus le courage de se dire, moi, je suis avec lui. Il l'a renié. Alors, le fait que Jésus doive aller seul, à mon sens, c'est un message central dans la scène. Jésus-Christ, en donnant sa chair et son sang, est le seul qui a pu satisfaire la justice de Dieu. À travers son sacrifice, Dieu pardonne nos péchés. Si la grâce nous a été donnée de croire qu'il est l'agneau de Dieu, le premier-né de toute la création. Pierre, il a fait du chemin. Dans la première épître, on voit que il a compris bien les choses. J'aime beaucoup ce verset de 1 Pierre, ces deux versets de 1 Pierre 1, 10 à 11, où Pierre dit: les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Lorsque cet Esprit attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Pourquoi j'aime ce verset? C'est parce que on voit que déjà les prophètes, d'une part, ils avaient l'Esprit de Christ en eux, d'autre part, ils avaient une certaine compréhension du fait que il fallait que le premier-né, ben, il donne sa vie, qu'il meure à notre place. Voilà. Là, j'ai arrêté d'écrire. Puis, après ça, d'un côté, j'étais soulagé. Je me dis, oh, ça y est, mon message, il est prêt. Puis, après ça, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu un intello, je sais pas, ou bibleux, ou comment dire, un petit peu, ouais, un peu étude biblique, quoi, je sais pas quoi. Enfin, ouais. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous interpelle un peu plus? Alors j'ai repensé à Pierre. Pierre, il avait renié, mais Pierre, on le lit dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, après la résurrection, il a un dialogue incroyable avec Jésus, qui lui demande: Pierre, m'aimes-tu? Et en fait, Pierre ne serait jamais devenu ce roc, bon, il serait jamais devenu ce serviteur qui nourrit les agneaux, qui paie les brebis, hein, comme voilà. Il serait jamais devenu ça si il n'avait pas renoué cette relation d'amour avec son Seigneur. J'ai pensé au commandement qui résume toute la loi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée, Et puis, le semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la relation avec Dieu, Pierre a changé. Dans les relations avec les semblables, qui peut changer ? Est-ce que moi, par exemple, au sein de mon couple, est-ce que je peux changer Marie-Laurence ? C'est pas mon rôle. Vous savez qu'en psychologie, si on essaye de se projeter sur l'autre, mais c'est cata. Est-ce que tu es d'accord, toi qui as fait des études ? Non ? La projection. T'es d'accord ? Merci. Ouf ! Bon, non, je veux dire, voilà, je me fais une petite statuette de Marie-Laurence, et puis, une image, et puis, ou bien dans ma tête, hein, puis voilà, puis je veux qu'elle soit comme ça. Non. Le seul qui peut changer, c'est moi. D'accord ? Et puis, le côté de Marie-Laurence, c'est son boulot à elle. C'est vrai. Mais l'un et l'autre, qui peut vraiment nous changer ? Ben c'est dans notre relation avec Dieu. Alors voilà, moi je m'arrête là. Et puis on laisse. Hein ? Oui, le chant. Oui. Ah oui, si, Frédéric, il sait. Ouais. Il sait tout, Frédéric. Il sait tout, il a la fiance. Il sait tout.
Je n'ai pas pris de notes, mais je vais vous dire les choses comme je les ai ressenties au sujet de la Sainte Cène. La Sainte Cène est composée, comme vous le savez, de deux éléments importants, le pain et le vin. J'ai cherché l'origine du pain et du vin. Vous voyez que le pain n'est pas quelque chose qu'on trouve tel quel dans la nature, le vin non plus. Ce sont des éléments qui doivent être travaillés et qui demandent d'ailleurs beaucoup de soins, beaucoup de travail. Dans l'Antiquité, le pain, autour de la Méditerranée, hein, pas en Asie mais en Europe, eh bien, est issu des céréales. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces céréales ? On les plantait, on attendait que ça pousse, mais il fallait aussi veiller à toutes sortes de choses. Pendant que ça poussait, il ne fallait pas qu'il y ait de livret dans le champ, hein. Vous vous souvenez des paraboles qui parlent du bon grain et de l'ivraie. Donc, il y a un combat pour que ce blé ou l'orge, l'épeautre, il y avait différentes céréales dont on pouvait tirer du pain. Ensuite, quand le grain était bien formé, il fallait récolter ces épis. Mais on ne pouvait pas faire du pain avec les épis tels quels. Il fallait enlever l'enveloppe, la tige, tout ce qui était la paille et même l'enveloppe du grain. Et pour cela, il fallait que le grain soit broyé. Alors, on pouvait le mettre sur une aire de battage, on pouvait le battre jusqu'à ce que l'enveloppe s'en aille et qu'il reste que le grain. On le vannait aussi, on le mettait dans des sortes de paniers, on le lançait en l'air, et ce qui retombait, c'était le grain, et ce qui n'était pas mangeable était dispersé. On pouvait aussi l'écraser, ce grain, jusqu'à ce qu'il devienne une poudre, une farine, qu'on puisse mélanger à quelque chose d'autre. Et là, alors soit on pouvait le faire avec des bœufs ou des ânes qui écrasaient le grain aussi, comme ça, ou bien on a fabriqué des machines pour pouvoir en faire de la farine. On connaît plus près de nous les moulins à vent et qui permettaient d'avoir cette farine plus ou moins fine. Mais cette farine, ce n'était pas encore du pain. Il fallait la mélanger avec de l'eau, du sel, et puis après on en faisait, on arrivait à en faire des pains, mais on y rajoutait encore de la levure ou du levain. Et le levain permettait, quand on cuisait, quand on mettait ça, on ne pouvait pas le manger cru. Il fallait le mettre sur une plaque ou dans un four chaud pour que cette pâte prenne de la couleur, de la saveur et qu'elle lève. Et ça donnait du pain. On pouvait avoir des pains assez plats ou bien des grosses miches. Dans la Bible, on parle de trois sortes de pain. Il y avait le pain avec le vin, qu'on appelle lechem en hébreu. Et en passant, souvenez-vous que Jésus, lui, il est né à Beit Lechem, Bethléem, la maison du pain. C'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce que Jésus, il s'est appelé lui-même le pain de vie. Tiens, il reconnaissait par là que le pain, c'était quelque chose d'essentiel à la nourriture de l'époque et encore maintenant. Le pain est important. Et à l'époque, c'était vraiment indispensable. Mais il y avait une autre sorte de pain. En hébreu, on appelle ça matza. C'est du pain sans levain. Ça, ce pain-là, il était réservé pour les fêtes. Et puis, les fêtes importantes telles que Pessah, Pâques. Parce que ça signifiait que le pain, on n'avait pas eu le temps de le faire lever. Et on a dû l'emporter comme ça dans la fuite, hein, hors d'Égypte. Et c'est resté dans la fête de Pessah pour montrer que, voilà, ce pain indispensable, il était présent. Mais il y avait autre chose. Dieu voulait, au travers de la fête de Pâques, montrer la délivrance qu'il allait accorder à son peuple. Oui, son peuple devait fuir, sortir, mais c'est Dieu qui l'accompagnait, et pas n'importe où. Il l'accompagnait au pays promis. Et puis, il y a encore une autre sorte de pain dont parle la Bible. Pendant le Shabbat, le samedi, c'était considéré aussi comme une fête importante. C'était une fête familiale, mais on fait encore maintenant des pains qu'on appelle challah, et qui sont des tresses. C'est pas grave. Et ces tresses-là sont des pains de fête qu'on mange seulement le Shabbat. Et puis, il y a encore d'autres sortes de pains que on mettait dans le temple, donc c'était important. On mettait chaque semaine 12 pains devant l'Éternel, 12 pains de proposition, et ces pains étaient changés chaque semaine, et c'était seulement les prêtres qui avaient le droit d'en manger quand ils étaient mis de côté. Et puis, voilà, donc ce pain qui était consacré pour Pessah, eh bien, Jésus, voilà qu'il a utilisé la fête de Pâques pour continuer ce que Dieu avait à enseigner à son peuple. Non seulement le peuple d'Israël, mais aussi celui qui viendrait après, l'Église. Et tous les croyants, en fait, seraient, grâce à Jésus, unis autour d'un même pain et aussi autour du vin. Alors maintenant, je vais vous parler du vin. Le vin, comment est-ce qu'on le produit ? Eh bien, il faut des cèpes et il faut les planter. Là aussi, il y a beaucoup de travail. Il faut protéger de toutes sortes de maladies. Et même dans la Bible, on parle des renards qui venaient manger les raisins verts. Au moment où les raisins auraient besoin de prendre de la couleur, ah, il y a un prédateur qui vient les manger. Il n'y avait pas seulement ça. On mettait une tour au milieu des vignes pour surveiller, pour pouvoir voir par-dessus la vigne quoi ? Eh bien, ceux qui venaient voler les raisins avant qu'on les récolte. Donc, il fallait plein de travail et de soins pour garder cette vigne, pour la faire fructifier. Je vous passe tout ce qu'il faut faire dans l'année, mais si vous observez le travail des vignerons ici dans notre région, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et encore, on n'est pas garanti que ça réussisse. Parce qu'une fois que le raisin est mûr, il faut faire la vendange. Alors, on récolte ce raisin, mais ce raisin, on peut le manger tel quel. C'est très bon en grappe, mais ce n'est pas encore du vin. On peut l'écraser et en faire du mou. Ce n'est pas encore du vin. Ensuite, il faut... autrefois, on le mettait dans des amphores. On en a retrouvé encore en archéologie, dans lequel on mettait le vin et qui vieillissait plus ou moins longtemps, qu'on pouvait transporter. On pouvait aussi le transporter dans des outres, en pot. Et puis là, il fallait le boire assez vite, parce qu'autrement, ce n'était pas le meilleur vin qu'il y avait. Et Jésus, il a fait aussi un miracle avec le vin. Vous vous en souvenez, son premier miracle, c'est à Cana, où il a transformé de l'eau en vin. Et son vin, il était meilleur que celui qui avait été servi. Donc il y a toutes sortes de vins. Il y a des vins plus des piquettes, et puis il y a des vins magnifiques. Et celui que Jésus a servi devait être bon, puisqu'il y a même eu des réflexions. Tiens, d'habitude, on donne le vin moins bon à la fin, parce que les gens sont déjà un peu partis, alors que là, toi, tu donnes le meilleur à la fin. Voilà. Avec Jésus, c'est toujours le meilleur qu'il donne. Et puis, donc, dans la fête, normalement, les gens ne buvaient pas de vin couramment. On buvait de l'eau, d'autres choses. Et puis, mais pendant la fête du Shabbat, tous les samedis, on avait le droit de boire une coupe. Il ne fallait pas se saouler. Parce que l'ivresse du vin n'est pas recommandée du tout et n'est pas bien vue dans la parole. Il parle du vin qui réjouit le cœur de l'homme, mais pas qui l'étourdit au point qu'il perd la tête. D'ailleurs, quand Noé est arrivé sur terre, et lui, première chose qu'il a faite, c'est une vigne, mais il s'est enivré à tel point que la suite s'est pas bien passée. Donc, dans la Bible aussi, le vin, s'il réjouit le cœur de l'homme d'un côté, est un bienfait, de l'autre, il peut être un piège. Il peut être, si on le prend en excès. Et puis, il signifie encore autre chose, il signifie la colère de Dieu, le jugement. Quand il parle des coupes qu'il va dans l'Apocalypse, qui est rempli de la fureur devant le péché. Et c'est pas pour rien que Jésus, justement, lors de la Sainte Cène, il a pris une coupe. Cette coupe-là, il y en avait quatre dans la fête de Pessah. On pouvait en boire quatre. Et il a pris la dernière coupe et il se l'est attribuée. Et si cette coupe est une coupe de bénédiction pour nous, pour lui, ce n'était pas la même chose. C'était une coupe amère, quelque chose qui lui a fait entrer dans l'agonie à tel point qu'il suait du sang, tellement c'était une coupe épouvantable à boire. Et il a même demandé à Dieu lors de son agonie, mais que cette coupe s'éloigne de moi, tellement c'était insupportable. Mais, heureusement pour nous, il est allé jusqu'au bout et il a bu cette coupe de malédiction ou de jugement du péché pour le prendre sur lui, lui qui était l'agneau de Dieu sans défaut, pour que son sacrifice soit accepté par Dieu et que tous ceux qui croiraient en lui, ceux de l'ancienne alliance comme ceux de la nouvelle alliance, puissent trouver la bénédiction, le salut et la vie éternelle par son sacrifice. Donc, lui, il a apporté quelque chose de nouveau dans cette fête, qui était la fête de la délivrance, mais de la délivrance d'un peuple, la délivrance physique. Lui, il a apporté la délivrance suprême, la délivrance du péché qui nous éloigne de Dieu. Et en plus, non seulement il l'a apporté à son peuple, mais c'est devenu un cadeau universel. Tous ceux qui mangent de ce pain de vie qu'il est et qui boivent de cette coupe, il a dit lui-même que ça représentait son sang versé, eh bien, ont accès à la vie éternelle grâce à lui. Maintenant, nous allons chanter le chant et surtout la prière qu'il nous a apprise et où il est fait mention du pain, le pain dont nous avons besoin chaque jour, c'est-à-dire le Notre Père.
On a vu tout à l'heure que Pierre avait dû changer fondamentalement. Et bien, moi, j'ai pensé que ça donne un sens au fait de prendre régulièrement, de prendre souvent la Sainte Cène. C'est que nous avons toujours besoin de changer. Et je dirais jusqu'à la fin de nos jours. Voilà.